Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Hello, buonasera, bonjour à tous. Comment ça va? Vous êtes bienvenus dans le RKS Foot Time Show, votre émission 100% football. On va parler ce soir Ligue 2 avec le GF38, Ligue 1 avec Rennes, l'Olympique Lyonnais. On va parler également d'un petit tour d'Europe. On va faire le tour d'Europe, on va parler Serie A, mon Kevin, ne t'inquiète pas. Et on va faire un sujet sur la VAR. Mes compères sont là. Messieurs, comment allez-vous? Monsieur Kevin, comment ça va aujourd'hui?
Buonasera, si. Tutto bene,
grazie. Bonsoir Marco Verratti.
Facciamo le missioni in italiano, hein. Si. Comment ça va, mon Kev?
Ça va super, super. Et toi?
Bah écoute, ça va bien. Bon. Et toi, mon Pierrot?
Bah je vais pas vous parler en breton parce que les auditeurs vont rien comprendre. Ça va, ça va. Merci, ça va super bien. Ravi d'être avec vous et ravi d'être avec vous aussi, auditeurs, auditrices, pour une nouvelle émission.
Bon, messieurs, hormis le football anglais, en ce moment, on s'emmerde un peu à la télé, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu un petit coup de gueule.
Oh là là, ouais.
Oh, non.
Bah, et attends, Kevin, quand il n'y a pas Batman à la télé, de toute façon, il se fait chier.
Non, mais et honnêtement, on en parlera dans notre tour d'Europe. Ce championnat d'anglais démarre d'une manière incroyable, ouais, avec plus de 35 buts à chaque journée.
Ouais. Ouais, ça a planté en France.
Là. Est-ce que vous connaissez le nombre de buts qu'il y a eu en Serie A sur la deuxième journée?
32?
Non.
Moins ou plus?
Plus.
37? Mais non.
Plus.
Mais oui, mais
40. Je crois qu'on était à 38 ou 39 hier quand la Juve a fini de jouer.
Ouais, mais quand...
Il reste encore deux matchs, je crois.
Quand Kevin admettra que de toute façon la Serie A brille par Zlatan Ibrahimovic qui plante but sur but.
Ouais, mais ça c'est le retour. C'est le retour de Benevento.
Attends, je le chauffe un peu, Kevin, parce que je le sens fatigué.
Non, t'inquiète, je suis présent.
Bon, messieurs, on va ouvrir notre page Ligue 2, hein, puisqu'on a joué donc cette cinquième journée de Ligue 2 ce week-end avec enfin sur un match une victoire des Toulousains 3-1 face à la Auxerre. Les Toulousains qui se réveillent, messieurs, c'est de bon augure pour la suite parce que par contre, ils ont fait vraiment une prestation aboutie.
Incroyable, incroyable. Je crois que ça faisait depuis... ils étaient sur une série de 25 matchs, je crois 25 matchs sans... c'était ça, les gars, 25 matchs, je crois, ils étaient sans victoire.
Ouais, ils ont pas gagné depuis
2019.
Depuis 2019, ouais.
Incroyable, incroyable. Et quand tu vois, je pense que l'engouement qu'il y avait et puis l'excitation après le match était à la hauteur, mais ça a été un néant. Je me mets à la place des supporters toulousains.
Les pauvres.
Parce qu'en fait, à la fin du match, ils ont dédié cette victoire donc à tous les supporters. Mais moi, je sais même pas si j'aurais osé le faire. Mais c'est un naufrage sportif, c'est historique. En vrai, je pense pas que dans le football moderne tel qu'on le connaît.
Si, le GF38. Non, c'est pas méchant, mais vous savez qu'on
c'est la pire
série de défaites en Ligue 2. Ils sont descendus de Ligue 1, ils sont descendus
c'était
en National.
C'était quoi? C'était 12 ou 13 défaites,
c'est
je crois,
ça,
à l'époque.
13 défaites d'affilée. Ouais. Donc, oui, c'est historique, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Moi, ça m'embêterait énormément que les Toulousains deviennent la risée du football français en Ligue 2 parce que ça reste quand même un grand club qui a été des années en Ligue 1 et je pense pas que leur place est ici.
Oui, c'est vrai.
Ils ont une bonne période aussi avec la période de, c'était Pascal Duprat qui était là-bas aussi.
Ouais, il a juste sauvé le club avant de le recouler.
Ouais,
l'année d'après.
Ouais, mais tu vois, il y avait eu déjà une période où ils étaient en train de couler, comme tu dis, le terme est le bon. Il y avait eu un rebond, donc et sincèrement, moi, Toulouse, ils arrivent à faire pourtant de bonnes choses, mais c'est impressionnant. Quoi. Il y a comme une malédiction, donc espérons qu'elle soit enfin levée.
Non, mais en plus, il y a quand même des bons joueurs qui sont passés par Toulouse ces dernières saisons, qui viennent même, qui ont été révélés par Toulouse.
Moussa Sissoko,
le fils caché de Didier Deschamps, Wissam Ben Yedder.
J'ai pas vu la femme de Didier, mais.
Martin.
Braithwaite.
Martin Braithwaite, nouvel ailier fort du Barça.
Wissam Ben Yedder.
Oui, non, mais c'est vrai.
Non, mais il y a des joueurs.
Aurélien Capou. Étienne Capou.
Melvin n'était pas là il y a 30 secondes quand t'as dit Ben Yedder. Parce que il t'a regardé genre Ben Yedder. Merci, Melvin. Bonjour à tous.
On est en forme.
Équipe.
Deuxième match au sommet, puisque les deux leaders se rencontraient sur cette journée. Niort et le Paris FC. Le choc a tenu ses promesses, ouais. Puisque Niort et Paris FC ont fait deux partout.
Et il y a eu de l'engagement. Je crois qu'il y a eu des rouges aussi qui sont tombés. Bon, ça,
il y a eu un beau match.
Ça a été un week-end pour l'arbitrage. On va en reparler parce que c'était pas mal quand même.
Un rouge de partout. On va faire une session arbitrage dans notre dernière partie. 2-2 donc entre Niort et le Paris FC.
Avec une remontada du Paris FC.
Avec une remontada du Paris FC qui était menée 2-0 avec un doublé d'Olivier Kemen. Et qui se fait remonter 2-2 avec un but de Kanté, non pas N'Golo, mais
N'Golo.
C'est surtout qu'ils perdaient 2-0, ils étaient à 10 contre 11, donc une remontée assez improbable. Mais ça monte, c'est bien, parce que ça veut dire que derrière les qualités techniques et sportives qu'ont ce club, il y a aussi des qualités au niveau du moral et de l'esprit d'équipe. Et je pense que Paris FC peut.
Vous avez vu les deux coachs quand même. Je m'en serais pas douté, mais Franck Passy, coach du coup de Niort.
Ouais.
Et René Girard.
C'est impressionnant.
Ouais. C'est le cimetière de nos coachs perdus. Là-bas.
Ouais, mais. C'est les méchants. Non, moi je trouve justement, c'est ce qui remonte le niveau peut-être de la Ligue 2, c'est d'avoir des coachs comme Paul Le Guen, Pantaloni, comme notamment, tu viens de le dire, René Girard. C'est, ça fait du bien, moi je trouve, à la Ligue 2.
Ouais.
Sceptique.
Je suis sceptique quand même. En fait, on va dire que on va attendre de voir vraiment comment va se passer cette saison et surtout la qualité de jeu produit, parce que on peut parler de résultats, on peut parler de statistiques à chaque fois, mais moi, ce qui va m'intéresser, et c'est là qu'on va mesurer surtout l'évolution de cette Ligue 2, c'est est-ce que les clubs qui jouent la montée, les 4-5 premières places de Ligue 2 jouent bien. Et est-ce qu'il y a une identité de jeu qui fait penser effectivement que la Ligue 2 est sur le bon chemin. C'est le même constat que je ferai aussi sur la Ligue 1. On jugera la Ligue 1 quand on verra, peu importe qui sera devant, mais quand on verra du beau jeu ailleurs que chez le Paris Saint-Germain. Voilà, qui semble être le cas sur deux ou trois équipes qu'on ne s'attendait pas justement.
C'est d'ailleurs ce que je disais la semaine dernière en parlant de Grenoble, et que je disais ce que je disais aux supporters. Quand le supporter me disait « Ouais, Grenoble, je les sens bien », je dis « Attention, ils ont battu le 16e, le 19e et le 20e, et là, ils vont jouer contre une équipe bas de tableau, à voir ce qu'ils vont fournir dans la durée. » Et tu vois, regarde là, parce que tu allais y venir, le match Guingamp-Grenoble, où Grenoble perd 1-0.
Ouais.
Grenoble perd 1-0.
Contre une petite équipe de Guingamp.
Contre une petite équipe Guingamp, moi je vais vous dire honnêtement, c'est un bon début de saison du GF38. On va pas.
Oui, au niveau comptable.
Début de saison est bon. Je suis assez inquiet. On devrait avoir la chance d'avoir prochainement un joueur du GF38 pour en parler. Je suis inquiet sur. Offensivement, sur notre capacité à créer le déséquilibre, à être tueur, parce que c'est ce qui nous manque, c'est les 25-30 derniers mètres, la dernière passe n'est pas bonne, c'est pas cadré, parce qu'au niveau des stats, on les a bouffés, Guingamp, faut le savoir, c'est un gros match qu'a fait le GF38, mais par contre, ça pêche dans la finition, et ça, c'est inquiétant, parce qu'on le voit depuis le début de la saison, messieurs.
Ouais, c'est vrai, on ne peut pas dire que ça pêche d'efficacité, parce qu'on disait justement dans la précédente émission qu'on était la meilleure attaque de Ligue 2. Jusqu'à ce match contre Guingamp, donc il n'y a pas forcément un gros problème, mais je sais pas, est-ce que c'est peut-être une question d'animation sur le match de Guingamp, parce que Guingamp jouait quand même bien le coup défensivement, ils ont quand même très peu concédé. Je sais pas. Est-ce qu'il faut être inquiet? J'arrive vraiment pas à situer vraiment au final le niveau de ces Grenoblois. Est-ce que les résultats étaient gonflés parce qu'ils ont rencontré des équipes vraiment un petit peu en dessous dans ce championnat, comme disait Pierre, peut-être. De toute façon,
je sais pas. C'est tellement compact.
Après, c'est compliqué.
Tu parles d'efficacité. Grenoble a tiré deux fois,
cadré deux fois. T'as vu le nombre de frappes?
9.
Mais oui, ils en ont envoyé quelques-unes dans les gradins, mais. Après, tu vois, en termes d'efficacité, tu cadres deux fois, tu marques pas de but, ça, il y a rien de scandaleux. Quand parfois Lyon, par exemple, faisait 27 frappes dont 9 cadrés et finit à 0, là, pour moi, il y a un cruel manque d'efficacité.
Ouais,
là, 9-2, c'est pas. Mais quand je dis l'équipe faible de Guingamp, par contre, il y a une statistique qui trompe pas au niveau de Guingamp. C'est tu regardes sur les derniers matchs, ils sont quasiment incapables de passer les 80% de passes réussites sur ces derniers matchs. Et là encore, 70% de passes réussites seulement pour Guingamp. Mmh. Ça montre le niveau très très faible de cette équipe. Donc c'est pour ça, je pense que
avec deux anciens Grenoblois.
Ouais, Mchangama.
Jacques-Alexis Romao, Youssouf Mchangama. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est
ouais, bon, qu'est-ce que tu
après Grenoble, 5 journées, 3e de Ligue 2.
Oui, on aurait signé pour ce début de saison après 5 journées. Même si il faut faire attention, moi je pense que, très honnêtement, 9 tirs c'est pas assez pour un match où tu veux gagner.
Bah, d'autant plus que on peut le dire, hein, Philippe Isberger n'est pas allé pour aller chercher un match nul ou quoi. Il attaque avec un 4-3-3.
Ouais, le 4-3-3 qu'il a mis face à Toulouse, je crois qu'il met juste JT à la place de Anani.
Et il manquait Jesse Benet qui a été remplacé par Cissé.
Ouais, ça c'est quand même.
Ça, c'est un coup dur.
C'est un coup dur parce que Jesse Benet depuis maintenant la remontée du club en Ligue 2, c'est un pilier de cette équipe. Je trouve que c'est un à l'époque. Avant cette année, avant l'arrivée notamment des joueurs comme Ravé, etc., c'était un des rares qui avait un petit peu cette touche un peu technique sur le terrain, cette qualité de passe, alors qu'il y avait à côté des joueurs comme Koulibaly, etc. Enfin, j'ai rien contre eux, mais qui étaient plus joueurs un peu physiques, athlétiques.
C'est un peu le maître technique de l'équipe.
Et là, c'est sûr qu'un joueur comme lui, ça peut manquer, ce qui peut expliquer pourquoi ils n'ont pas gagné le match.
Ouais. Bah écoutez, à suivre pour le GF 38. Les autres résultats, il y avait un autre choc aussi, hein, c'est entre Valenciennes, l'équipe qui se porte bien depuis le début de la saison, qui est allée battre le Stade Malherbe de Caen, hein, qui a aussi des ambitions. Valenciennes qui reste quand même cinquième de ce classement. Vraiment en dents de scie, c'est une équipe qui a gagné, qui a perdu, qui a gagné.
Bah, comme un peu tout le monde quasiment. Voilà. Enfin, je veux dire,
si t'enlèves Niort, Paris, ouais, et Sochaux.
Si t'enlèves les trois premiers.
Et encore, Sochaux qui allait faire match nul à Ajaccio. Et je trouve que ce match-là représente bien le niveau de cette Ligue 2. Tu vois, où t'as Sochaux qui va se prendre les pieds à Ajaccio.
Mais il n'y a que deux équipes qui ont 2 points par match, en fait, depuis le début de la saison. C'est Niort et Paris.
Paris FC.
C'est quand même peu. Aujourd'hui, pour monter, il faut que tu sois. Allez, il faut que les
2,3, 2,4.
Ouais, déjà à 2, c'est déjà pas mal. Mais là, c'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça. D'un côté, il peut y avoir une fenêtre de tir pour le GF 38. Parce que si effectivement le niveau est plutôt homogène, et là, ça m'a l'air quand même assez homogène bas pour cette Ligue 2, il y a peut-être une fenêtre de tir pour finir dans les 5 premiers pour Grenoble et essayer de monter. Bon, après, la question qu'on va se poser, j'espère qu'on se la posera, ça veut dire que le Grenoble sera bien positionné, mais est-ce que ça vaut le coup de monter si c'est pour monter avec ce niveau-là et l'année prochaine,
moi, je pense pas.
Finir 20e, quoi.
Ce qui est dommage aujourd'hui, je trouve, avec notre Ligue 2, c'est un peu à l'image de Pep Gay là, qui part à Marseille alors que c'était un super joueur d'Amiens. En fait, la Ligue 1 se fait dépoiler par la Première Ligue et la Ligue 2, elle, se fait violer par notre Ligue 1, par tous les championnats aux alentours. Dès qu'il y a un joueur qui surnage ou qui a le niveau, le problème, c'est que la Ligue 2, autant notre Ligue 1, elle peut commencer à arriver à refuser, par exemple, pour avoir des offres à 35 millions, comme pour Fofana, on refuse Leicester 35 millions, mais notre Ligue 2, à l'inverse, dès qu'il y a un club qui arrive avec 5 briques, ils vident l'effectif, quoi. Mais c'est ça où c'est triste, c'est que les clubs de Ligue 2 doivent naviguer en sous-marin jusqu'à la fin du mercato, limite pas mettre leurs pépites, et après se mettre en ordre de marche.
Et d'autant plus avec la conjoncture économique.
Ah ouais.
Ça va attirer l'arigot, parce que
c'est ça qui est malheureux.
J'aimerais qu'on reprenne, il y a quand même dans cette Ligue 2, moi je trouve que c'est une des Ligues 2 les plus compacte en termes de niveau par rapport au nom des clubs. Il y a quand même Toulouse, Auxerre, le Paris FC, Guingamp, qui est quand même un club de Ligue 1 qui joue longtemps, Valenciennes, Caen, Sochaux, Nancy, Le Havre. Ça reste tous des clubs qui sont quand même costauds, qui peuvent jouer les premiers rôles. On en passe justement à deux équipes qui se connaissent bien, c'est Nancy et Le Havre, hein, l'équipe de Paul Le Guen qui est allée s'imposer du côté de Nancy. C'est pour moi une des équipes qui peut prétendre à la montée en Ligue 1 cette année. J'ai du mal à voir Niort tenir la cadence, hein, on va pas se mentir. Le Paris FC peut jouer quelque chose. Sochaux est un gros club qui peut jouer quelque chose.
Le Paris FC, ça fait plusieurs années qu'il commence à titiller le tableau de la Ligue 2. Bon, après,
est-ce qu'enfin on va voir deux clubs d'une même ville dans notre championnat de France en Ligue 1 ?
J'aimerais bien.
Ce qu'on voit en Italie, ce qu'on voit en Espagne.
Ouais, ben on espère, on verra.
donc voilà, c'est vrai que c'est une Ligue 2. On va finir sur les derniers résultats. Chambly qui s'est imposé 2-1 face à Châteauroux.
Alors, Amiens. Tu te rappelles, Chambly, c'est où en France ?
L'Ouest.
C'est dans l'Oise.
je l'ai dit la dernière fois.
C'est dans l'Oise.
Non, mais en plus, le club s'appelle Chambly Oise.
Oui, on avait déjà dit.
Ouais.
Allez, retour vers le futur.
Ouais, c'est parti, on retourne. Amenez-moi la DeLorean.
Donc, ouais, Chambly. Il va nous la faire jusqu'à la fin de l'année. Vous savez où c'est, Chambly?
Non, mais Chambly.
Chambly, 13 000 habitants.
À la découverte de nos régions.
D'ailleurs, on salue chaleureusement tous nos auditeurs de Chambly, hein, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter en ce lundi soir.
C'est exactement ça. Et donc, Amiens et Pau qui se sont séparés sur un vilain match nul. 0-0. Et on n'oublie pas le match de ce soir entre Troyes et Clermont. puisqu'on va jouer du côté de Troyes. En cas de victoire, les Troyens reviendraient à la hauteur du GF38 avec 9 points, messieurs. On va passer à notre page Ligue 1. Ça a joué fort en Ligue 1 ce week-end, pardon.
Ouais.
Avec des buts, tu l'as dit, Pierrot. Hein, est-ce que tu es content d'avoir vu des buts, mon Pierrot?
Ouais, bah écoute, j'ai eu.
Non, mais parce que.
Toi, tu rigoles, hein, Kevin. Non, j'ai eu du nez, je vais vous le dire pourquoi. J'ai eu du nez parce que j'ai regardé.
Est-ce que les canaris sont faits.
Voilà.
Hein,
le petit canari. Bon, ça va me faire mal pour un canari, mais c'est vrai que Rennes est exceptionnel en ce moment. Et vendredi soir, j'étais pas disponible, donc je me suis rabattu sur Saint-Etienne-Rennes, sur lequel un très joli match avec beaucoup d'engagement et avec des buts. Et j'ai regardé le match du Paris Saint-Germain aussi en intégralité, donc des matchs sur lesquels il y a eu des buts. Ouais, j'ai vu 5 buts en 180 minutes, donc c'était agréable. Et puis j'ai vu que de l'autre côté, ça avait pas mal cartonné. Il y a aussi Monaco. Je vais laisser donner le fil de la présentation de la Ligue 1.
On peut commencer par Rennes. Je crois que ça a été le premier match.
Non,
Rennes, non,
ça a été Lille-Nantes.
Ouais,
Lille-Nantes avec Lille qui s'impose 2-0 face à Nantes. Bon, un CSC de Palois contre son camp et puis un penalty de Yilmaz à la dernière minute.
C'est pas un gros Lille, quoi. Surtout face à un petit Nantes, quoi.
C'est pas un gros Lille. Maintenant, ça me semble être une des équipes costauds qui peut jouer les 5 premières places, messieurs.
Tu trouves?
Ouais. Bah oui, ils peuvent jouer la première. Ouais. Ils ont prouvé de toute façon sur les deux dernières années qu'ils pouvaient jouer les 5 premières places.
Ils sont invaincus, messieurs, depuis le début de la saison.
Non, mais ils peuvent.
L'équipe de Christophe Galtier. Hein.
Ils peuvent, surtout que pour l'instant, les gros sont pas vraiment au rendez-vous de cette Ligue 1. Donc eux font partie de. Je pense qu'ils prendront le train pour les 6 premières places sans aucun souci. Il y a un bel effectif, moi, je trouve, à Lille. Bon, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire encore jouer Burak Yilmaz qui a presque 40 ans.
Il plante.
Il plante, ouais, mais des pénalties.
Jonathan Bamba, il connaît.
Oui. Non, par contre, oui, il y a des.
Benjamin André.
Qu'on
Renato
ne me parle
Sanchez.
Pas de Luis Arojo, la plus grande recrue sur côté de Lille. Non,
mais... Peut-être, mais José Fonte derrière, Mike Maignan dans les cages.
Oui,
c'est
costaud. Non, mais c'est un bel effectif.
C'est un bel effectif.
Même Botman est pas mal, Bradaric c'est pas mal aussi, André, Renato Sanchez. C'est des.
Bah, à l'inverse de l'année dernière, ils ne se sont pas foutus à poil au niveau du mercato. Attention, il n'est pas fini, il reste encore quelques semaines, mais. Mais tu vois, s'ils arrivent à conserver déjà ne serait-ce que le milieu de terrain, parce que c'est la rampe de lancement et c'est important. Bon, ils ont perdu Osimhen, mais ils essayent au niveau comptable. Alors, au niveau qualitatif, pour le moment, il n'a pas encore prouvé. Mais ouais, mais bon, regarde, Pépé, on disait, il est parti, on ne pourra pas le remplacer. Osimhen, il est arrivé, il l'a bien remplacé.
Alors, ouais, Osimhen, il est parti, là.
Et, oui, mais quand
il est remplacé par ce David qui a marqué 0 but en 5 matchs.
Oui, mais tu vois, ce que je disais, c'est que quand Pépé est parti... Tu sais, de Lille, et on a dit on n'arrivera pas à le remplacer. Il est remplaçable.
Oui, mais Osimhen, il a cartonné tout de suite.
Osimhen, il est arrivé, il a fait un super départ. Donc après, on va laisser le temps aussi à David d'essayer de
se
mettre au niveau. Il est jeune. Apparemment, il avait fait de très bonnes choses par le passé. Mais c'est vrai que pour le moment, tant qu'il ne sera pas plus tranchant, plus incisif devant le but, ce sera compliqué
après,
parce que le match est éterne. Hein.
Après, on a quand même, vous avez vu les joueurs qui sont rentrés en cours de match. Hein, Jonathan Ikoné,
ils ont un vrai
Yajichi. Ils ont quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence en rentrant, contrairement à d'autres clubs dont on pourra parler après, qui ont plus de mal avec leur profondeur de banc. C'est pour ça que je vous dis que sur la durée, ça peut être un club.
Bah, Lille a un effectif pour jouer plusieurs coupes, ça c'est certain.
On parle pas de Nantes, hein, c'est triste.
Ouais,
non, mais c'est vrai. C'est,
alors le gros problème de Nantes, il se situe aussi au niveau de Keita. On en a parlé sur l'avant-saison et on peut en reparler encore.
Keita, tu veux dire?
Ouais, Keita.
Parce que Keita, c'est des joueurs, c'est un joueur.
Valdemar Keita.
Le problème, il est qu'on n'a pas d'attaquant et je pense qu'on est orphelin de l'attaquant depuis Djordjevic qui était parti à Porto.
S'il y avait Salah après,
il y avait Salah,
le regretter.
Le problème, c'est que Salah, il est arrivé de Bordeaux sur la pointe des pieds, il a planté 3 buts par saison et puis l'année où il en plante 12, malheureusement, pas à son âme, il est parti trop tôt, à la fois du club et puis à la fois par le destin tragique qu'il a eu. Mais le problème, c'est ça, c'est que les Canaries ont toujours eu beaucoup de problèmes à trouver un vrai numéro 9, un numéro 9 qui plante. On essaye Koulibaly, on essaye, mais ça fonctionne pas. Je pense qu'à un moment, à l'image de ce qu'a fait Rennes, si tu poses pas un gros billet sur un gros attaquant, mais pas en demi-mesure, pas j'essaye de mettre 3 millions en offre d'achat payante ou pas. Non, là, il faut, pour se mettre au niveau de la Ligue 1, tu as besoin d'un buteur.
Oui, mais
là, il faut mettre les ronds.
Est-ce que c'est le projet?
Ouais, pas
c'est pas le projet.
J'ai l'impression qu'il y a
le projet de Valdemar Keita à Nantes, c'est le projet de 80% de nos présidents de Ligue 1. Hein. C'est achat-revente. Donc achat pas cher, revente très
ça,
cher.
C'est faire de l'argent.
Donc voilà, à partir de là, à ta place, Pierre, c'est sûr que pour un supporter nantais, c'est pas facile à avaler, mais c'est la triste réalité des choses. Aujourd'hui, les présidents comme Valdemar Keita, on peut en citer. Au moins 10 autres en Ligue 1 qui fonctionnent comme ça, cherchent à acheter pas cher, revendre. Les joueurs sont pas dans un projet de jeu, ils sont dans une stratégie d'entreprise.
C'est exactement ça.
Et c'est
triste,
ce qui est
en train de me rendre fou dans le football. Hein. C'est ce que tu dis. On n'est plus là pour le jeu.
Voilà.
Ouais, mais attends. Ok, d'accord. Je suis d'accord. On est sur un lobbying. On est sur une sorte de bourse, sur les joueurs de football. Après, moi, j'essaie juste de me dire un truc. C'est quand je vois les mannes financières qui retombe des coupes européennes, que tu sois sur la Ligue Europa, que tu sois sur la Ligue des Champions, quand le FC Nantes revend Léo Dubois, revend Rongier, récupère des dizaines de pépettes.
Le problème, c'est que Léo Dubois, il est venu gratuitement, Léo Dubois.
Oui, alors à la rigueur, Dubois, oui, peut-être. Mais en attendant, Rongier, on a récupéré 15 briques, si ce n'est plus. Mmh. Sur Salah, on a fini par les toucher, on a récupéré plus de 15 briques. Je ne demande pas à M. Keita de réinvestir 100% de ses fonds, mais quand tu vois l'importance du classement et ce que peut gagner un club quand il est 12e et que ça se joue à 10 points et puis qu'il peut se retrouver 5e, putain, il y a un moment, essaye au moins d'avoir un effet qui peut jouer la première partie de tableau. Je te demande pas d'investir des dizaines, des quinzaines, des millions. Je te demande pas d'avoir FC Nantes en Champions League. Mais essaye d'avoir un effectif suffisamment qualitatif et au moins équilibré pour être sûr de terminer dans cette première partie de tableau. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, Keita, il dégage. Il n'y a jamais eu autant de turnover au poste d'entraîneur dans un club professionnel.
Il est là depuis deux ans, je crois.
Oui, enfin un an et demi maintenant.
Ouais,
il a fait un morceau de la saison de l'année dernière et là il est encore là. Donc on va pas non plus, on va pas s'espanter.
Mais
le problème,
tu,
il est
tu
là.
Parles de, mais attends,
c'est
tu parles
Keita,
de
il cherche un magicien.
Oui.
Keita cherche des magiciens depuis des années. Il a pris 15 entraîneurs en l'espace de 10 ans. Il cherche des magiciens parce qu'il a pas envie d'investir dans son effectif. Et ce mec-là, vivement qu'il se barre.
Oui, mais tu vois, tu parles de Gourcuff. Gourcuff, c'est la démonstration parfaite de ce que veut faire Keita. C'est-à-dire, Gourcuff, c'est l'entraîneur qui fait ce qu'il peut avec pas beaucoup.
Ouais,
il va pas te faire chier.
Moyen.
Il va pas venir te voir en disant je veux tel attaquant, on met 15 millions dessus et sortez le chéquier, etc. C'est voilà. Donc quand tu prends quelqu'un comme Gourcuff, bah forcément tu te retrouves avec ça, avec un Nantes qui va finir 14e, 15e, qui va pouvoir dépenser 5 millions d'euros et peut-être récupérer 20, 25. Et c'est la stratégie, c'est comme ça. Alors il faut peut-être qu'on essaie d'avoir Keita à l'émission pour vérifier si c'est bien ça, mais je suis sûr qu'il serait capable de nous dire que non, pas du tout. Mais il y a pas de projet à Nantes. C'est triste, mais il y a pas de projet.
Mais pourtant, il y a des bons joueurs à Nantes.
Mais oui, c'est pour ça que je dis que c'est triste.
Simon, il est franchement, je l'ai vu l'année dernière sur certains matchs, il est magnifique. Blas, c'était une super recrue à la base. Il était au milieu de terrain. Maintenant, il se retrouve à jouer les attaquants, les avant-centres. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on bricole des avant-centres. On a de la qualité au milieu de terrain, on a de la qualité sur les côtés. Mais putain, foutez-nous un vrai numéro 9, quoi. Un buteur tueur, quoi. Je sais pas, Cavani, quoi. Prenez Cavani, il a pas de club.
Micheline de la Conta, non, ça va pas être content.
C'est bon, je peux entendre des choses comme
je
ça.
Je veux un numéro 9 à Nantes. Voilà. Si on peut se cotiser sur la page Facebook, on va faire une cagnotte pour le FC Nantes.
Cagnotte Litchi pour Cavani à Nantes. Oh.
Allez, on change de match justement parce que Saint-Etienne-Rennes. Rennes qui allait s'imposer 3-0 face à Saint-Etienne.
En patron.
Oui, en patron, c'est vrai.
Pour moi, je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, Rennes c'est très costaud.
Ouais.
Ça joue au ballon.
Je m'y attendais pas, moi.
Tu dis ça, Loulou. S'ils écoutent les podcasts, je crois que c'était à la 6e ou 7e émission. On les avait cités parmi nos favoris, toi aussi.
Non, pas favoris. Je pensais que.
Les favoris pour les
4e, 5e place. Ça fait partie des favoris.
4e, 5e place. Mais je pensais pas surtout qu'ils allaient y arriver avec cette qualité de jeu. Parce que
ça
hier,
joue au ballon
parce que
énormément.
Samedi, ils ont envoyé un signal fort, je trouve. C'était, comme l'a dit Pierre, victoire patron. 3-0, c'est propre. Il n'y a rien à dire en plus. Il n'y a même pas à dire oui, mais.
Il n'y a pas de carton, il n'y a pas trop de faute dans ce match. Non,
il y a un but refusé pour Saint-Etienne, mais à la limite, le but, il aurait été anecdotique parce que Saint-Etienne s'est vraiment planté sur ce match-là et tombé vraiment sur quelqu'un de meilleur. Enfin, je pense que Rennes a été meilleur. Et voilà, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la qualité de la Ligue 1 sera jugée par rapport au jeu qu'elle propose. Bah, si Rennes, qui est un club quand même qui a souvent erré dans les méandres de ce milieu de tableau, première partie de tableau, 8e place, 7e place. Pourtant, on le dit pas assez, mais Rennes appartient à la famille Pinault, qui est quand même une des familles les plus puissantes de France
et
du monde. Donc c'est quand même pas rien. La famille Pinault, depuis le transfert de Severino Lucas dans les années 2000, n'a plus rien investi à Rennes quasiment. Mais par contre, là, Rennes produit du jeu. Et c'est super que des équipes comme Rennes commencent à le faire. Si Rennes produit du jeu, si Lille produit du jeu, si Lyon se réveille un jour en virant son entraîneur en mettant quelqu'un qui veut produire du jeu, si Villas-Boas arrive à faire quelque chose de cet OM et qu'ils arrêtent surtout de s'enflammer dès qu'ils gagnent 1-0 contre Paris, si Paris derrière récupère son statut, on peut avoir une vraie lutte intéressante pour les 4-5 premières places. Ouais. Et là, je serai le premier à dire qu'on a une Ligue 1 plaisante à voir, intéressante, compétitive, et c'est là qu'on progressera en Europa League, en Ligue des Champions, c'est quand on se mettra à jouer et à faire du jeu.
Mais tu vois, déjà, je te rejoins sur un point, Kevin, c'est sur le fait que déjà Rennes joue avec un vrai milieu de terrain. Densifie le milieu de terrain. Parce qu'on parlait de Nantes tout à l'heure, mais Simon, la politique de Nantes, c'est on n'a pas d'argent, il n'y a pas de jeu au milieu, donc qu'est-ce qu'on fait? On met des mecs rapides sur les côtés, on balance devant et on espère que ça passe. La Rennes, ils conservent le ballon, il y a de la possession de balle, ils tiennent la balle. Nzonzi, c'est costaud. Kamavinga, c'est magnifique. Et tu vois, c'est beau, ça tient le ballon,
Bourigo,
c'est joli.
C'est hyper costaud.
Ouais, ouais, non, c'est clair, le milieu de terrain, il est bon. Et donc forcément, quand t'as déjà un gros milieu de terrain,
c'est quand même étrange. Hein. Dès que tu mets des joueurs qui ont du ballon au milieu de terrain, ça va mieux.
Ah bah... Mais ça paraît évident.
Et c'est pour ça que, je vous le dis, je le préviens, si Aouar se barre en première ligue à 40 briques, je pète un plomb. Putain, mais le Paris Saint-Germain, ils peuvent pas y aller, là.
Mais il va partir.
Non, mais c'est incroyable. Comment
il
on peut laisser des joueurs comme
pas
ça
au Paris Saint-Germain
partir? Non, mais... Oh, putain,
on va en parler après. Ça, parce qu'il faut qu'on en parle d'Aouar, quand même.
On va en parler après, quand on convient dans son match au Lyon. Justement, Marseille-Metz, le match le plus soporifique que j'ai vu, c'était horrible. Oui, je ne sais pas si vous avez vu le match, messieurs.
Non, mais si Marseille n'est pas capable de gagner contre Metz,
ils ont frôlé la correctionnelle. Hein. Morgan Sanson marque à la 95e. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Quand Morgan Sanson marque, il y a eu un déclenchement de CO2 dans tout le stade. Ils ont tous soufflé. C'était... Non, mais tu ne te rends pas compte de la délivrance
mais 95e
d'un club
minute,
qui a souffert.
Quoi.
Ils ont souffert, vous imaginez?
Contre Metz, alors qu'on disait que c'était l'équipe parfaite pour repartir de l'avant, quoi.
Ouais, non, bon. Après, quand je regarde les résultats de Metz, ils sont pas pris de tôle. Hein. Ils ont pourtant joué déjà contre Paris, contre Lille, contre Monaco, et ils ont jamais pris une défaite avec plus d'un but d'écart. Ils ont jamais gagné, je crois encore, mais
non. Ils ont gagné un match contre la 4e journée.
Ouais, super. Finalement, Metz, c'est peut-être une équipe, oui, c'est l'équipe que la Ligue aime bien, c'est l'équipe qui joue avec 50 joueurs derrière.
L'équipe qui joue en contre, je suis d'accord, c'est typiquement
contre,
l'équipe de Ligue 1 qui...
avec des grands costauds au milieu de terrain et puis voilà pour Marseille doit gagner.
Mais les gars, il y a un truc aussi qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a certains clubs qu'on égratigne pas trop souvent parce qu'au niveau des résultats, au niveau comptable, comme disait notre ami Melvin, c'est pas trop mal. Par contre, les gars, s'il y a bien un poste sur lequel on n'a rien à envier à aucune autre Serie A, Première Ligue ou quoi, c'est sur les postes de gardien. Mandanda, il fait encore un gros match. Et moi, j'ai regardé aussi la première mi-temps. Tu vois, je dis des conneries. J'ai regardé la première mi-temps du match Bordeaux-Nice. Bordeaux-Nice, les gars, si Benitez il est pas là, c'est comme sur les derniers matchs, ils prennent une valise à la première. Hein. Mais parce qu'on a des gardiens de top niveau.
Ça, je suis d'accord.
On a des gardiens de top niveau. Et notamment Marseille, tout comme Nice, qui ont quand même investi, qui ont quand même l'objectif d'être dans les 5 premiers.
Maignan, c'est pas mal. Lopez, c'est pas mal. Keylor Navas, c'est un des meilleurs.
À Monaco, comment
comment il s'appelle à Monaco?
Qui vient de Montpellier là.
Mais même
Benitez, c'est très bien. Lecomte, c'est très bien.
Lecomte, c'est très bien.
Costil,
Mandanda, c'est des bons gardiens. Donc oui, je suis d'accord. Mais on a toujours en France eu des bons gardiens. Je trouve.
Oui,
on n'a jamais eu.
À l'époque de Duchesse, le gardien.
Mais même le nouveau. Année 2000, typiquement, les années lyonnaises, t'as coupé dans les cages, mais t'as Ramé qui est à Bordeaux, t'as Jeannot qui est à Saint-Etienne.
Même Ruffier, ça a toujours été costaud.
Alonso, des gardiens français de bon niveau.
On a six gardiens de très haut niveau dans notre championnat.
Ouais, bien sûr.
Prochain match, donc Bordeaux-Nice, 0-0, pas grand chose à dire. C'est une purge.
Bordeaux.
C'est un match de.
Puis Nice aussi, parce que Nice, ça va plus là. Enfin, je veux dire, on peut jeter un coup d'œil rapide là sur les dernières performances de Nice.
Je suis content que Nice et que vous y veniez, parce que si les gens écoutent les deux premières émissions, vous
étiez
là
nous dire à chaque fois
Nice, je vous avais dit Nice, attention.
À Nice, les trois derniers matchs, c'est deux défaites, un match nul.
Nice, ils produisent rien.
Il y Il n'y a pas de football, c'est triste. Il n'y a même pas de révolte, il n'y a même pas de faute, il n'y a pas d'agressivité.
Il y a Lopez qui a fait quand même un match pas trop dégueulasse. En première mi-temps, je parle de ce que j'ai vu. Il a fait notamment un grand pont là où vraiment derrière il fait une course de balle où, bon, derrière ça ne suit pas malheureusement. Il est un peu... Mais il revient de l'Espagne. Écoute, il retrouve un peu de rythme. Il sort d'une saison nulle.
Après, tu me parles tout à l'heure de ce qu'on a dit sur, les premières émissions sur Nice. On a dit qu'il fallait que Nice soit là pour relever le niveau de la Ligue 1. Nice va jouer l'Europe, on a besoin d'eux aussi qu'ils soient performants. C'était plus, entre guillemets, une bonne attente de cette équipe. Et on pensait effectivement qu'il y avait pas mal d'ingrédients, un bon président, un entraîneur, même si c'est un entraîneur un peu expérimenté, mais qui pouvait lui aussi peut-être apporter son expérience du terrain, etc. Et qui saurait avoir cette aura auprès des joueurs pour influencer positivement cette équipe. Même si moi, j'ai mis des doutes sur Patrick Vieira aussi par rapport à ses performances de l'année dernière. Mais au final, c'était plus des attentes plutôt que de dire « Nice, cette année, ça va finir top 4, c'est sûr. »
Mais si tu analyses, tu sais, on parle très souvent de cette colonne vertébrale d'une équipe. Quand tu regardes la colonne Benitez, Dante, Schneiderlin, Lopez, Dolberg, sur le papier, c'est pas dégueulasse. Et quand tu rajoutes sur les côtés, bah, notamment
Guiri, Lopez,
Guiri ouais. qui vient de l'Olympique Lyonnais, c'est sur le papier, c'est pas mal, et c'est pour ça qu'on les avait mis parmi les outsiders.
Honnêtement, est-ce que la défense de Lille, de Nice, là, elle te fait rêver? Enfin, je sais pas. Dante, il a 60 ans. Camara, je sais pas qui c'est. Pelmar, ouais, ok, bon, il est jeune, ok, pourquoi pas. Mais
non,
bon,
mais c'est vrai que défensivement, c'est...
Voula, l'autre pas... machin truc,
Lotomba,
je sais pas qui c'est. Enfin, moi, je veux bien, mais il faut quand même un minimum de niveau.
Il y a un truc que j'ai pas compris dans l'animation du jeu. Alors, est-ce que c'était un objectif de faire monter le latéral gauche? Schneiderlin s'est retrouvé au moins 4 ou 5 fois à couvrir la ligne, son côté gauche, en tant qu'arrière gauche. J'ai rien compris dans l'animation de... Je sais pas ce que...
D'autant plus avec un milieu de terrain à 5, c'est inquiétant.
Mais
Schneiderlin
est gauche. J'ai pas compris.
Mais il était pas ailier gauche?
Non, sur la composition, il était à droite. Mais quand j'ai regardé la première mi-temps, il est allé au moins 3-4 fois couvrir tel un ailier. Il était le long de la ligne et il était latéral gauche. Alors, est-ce qu'il y avait un objectif de faire monter le latéral et lui de le faire coulisser sur la... Je sais pas. Mais bon, bref, il tente peut-être des choses. C'est pas plus mal, mais en attendant, si ça continue à faire des résultats comme ça, Nice va vite commencer à se poser des questions.
Circonstances atténuantes, Youssef Attal n'était pas là. Stanley Nsoki n'a pas joué encore, pareil. Bon, je sais pas pourquoi il joue pas d'ailleurs. Mais
le problème, c'est que Youssef Attal, il a encore des maux de tête de ce que lui a fait Mbappé sur le match d'avant, parce qu'il a été fantomatique. Quoi. Quand tu vois qu'il avait été annoncé encore une fois à Paris, Attal, faut vraiment qu'il monte son niveau, parce qu'il était annoncé partout et maintenant il va être annoncé nulle part si ça continue.
Messieurs, on avance dans ces résultats de Ligue 1. Dijon, Montpellier, deux partout. Hein, les Dijonais qui continuent leur petit bonhomme de chemin avec des matchs nuls. Et puis Montpellier qui cale.
Montpellier qui revient surtout de loin parce qu'il marque pareil dans le temps additionnel sur un pénalty. Après, Montpellier, ça reste costaud. Hein, ils sont à l'extérieur.
Ouais, ils n'ont pas à rougir de leurs quatre derniers matchs.
Ils jouent
troisième,
contre une équipe
ils ont
de Dijon
points, c'est
qui fait du jeu. Moi, je dirais Montpellier dans les plus. Hein, c'est malgré
non,
le
ça score. Va. Il faut savoir, y a des matchs qu'il faut savoir aussi ne pas perdre. On a le droit sur les 38 matchs.
Avec un pénalty à la 90e, je pense que tu ramènes un point, tu ne perds pas deux points.
Ouais, tu ramènes un point un petit peu au courage, etc. C'est à l'extérieur, même s'il n'y a pas de public. C'est jamais facile, mais moi je suis pas très inquiet pour Montpellier.
Bon, le RC Lens face à Nîmes, un partout du côté du stade des Costières. Le RC Lens pensait l'avoir gagné cette partie, mais finalement c'est Ferrat à la 87e minute du côté des Nîmois qui vient égaliser un partout. Mais
Lens qui continue à marquer. Hein,
mais ils sont bien.
C'est agréable.
Ils sont très bien dans leur truc là. Trois victoires sur les quatre derniers matchs du coup incluant celui-ci. Trois victoires, un match nul. Ils ont perdu que le premier match contre Nice. C'est ultra correct. C'est pas très grave. Même si ça aurait été bien pour eux qu'ils repartent avec les trois points, mais bon.
C'est comme ça. Messieurs, le match foufoufou de cette cinquième journée de Ligue 1, c'est Monaco face à Strasbourg. Monaco qui s'impose 3-2 en finissant le match à 9 contre 11.
Ouais, bon, j'ai vu ce match, Monaco a tout fait, c'est-à-dire que Monaco a marqué les buts et c'est presque marqué les buts contre son camp. parce que sincèrement le premier but c'est un but gag où ils font où le défenseur central fait une passe en retrait, tu sais pas ce qu'il fait, il balance un truc en arrière, le gardien il le regarde avec des grands yeux, il court dans son but en se disant mais qu'est-ce que tu viens de me faire. Pareil les deux cartons jaunes sur la première expulsion, tu le mec c'est d'une maladresse, il est là, il y a aucune action de jeu, il est à 20 mètres du but adverse, tu sais pas, c'est de la maladresse. Donc les rouges ils les ont offerts, le premier but il est offert, derrière le but sur pénalty pareil c'est un gag, le mec il est tout seul, il fait une course latérale de bord de touche à bord de touche et l'autre il arrive quand même à le faucher dans la surface alors qu'il est même il est dos au but. Bon, écoute, je sais pas, Monaco s'est fait extrêmement peur. Après au niveau offensif par contre ça me régale hein, parce que la petite doublette devant là, on avait peur avec le départ de Slimani que
Kevin Volland, c'est
ouais.
Mal.
Ouais, franchement,
Kevin Volland,
c'est vraiment très,
Ben Yedder,
très bien.
Ouais, c'est
il s'est mué en passeur décisif, mais il est chirurgical. Ben Yedder, il continue à être bon. C'est bien, c'est dans la, c'est sur sa dynamique, j'ai envie de dire aussi de l'équipe de France. Hein,
où et un but de Ruben Aguilar, un ancien de chez nous.
Ouais. Non, okay. Mais Monaco est très bien, les gars.
Monaco est très très bien, hein, vous l'avez vu.
Même au niveau comptable, hein, ils sont troisième ex aequo après à la différence de but. Mais,
Ouais, ils ont 10
bon,
points.
On attend quand même plus de performances comme celle-ci de Monaco. Plus abouti, offensif. Je n'ai pas cité d'ailleurs Monaco tout à l'heure dans les équipes qu'on attendait justement pour hausser le niveau de notre Ligue 1. Si Monaco aussi, pareil, joue un jeu plaisant aussi, ils peuvent se rajouter à la course.
Mais l'année dernière, le problème de Monaco, rappelez-vous messieurs, ce n'était pas offensivement hein, parce que Slimani Ben Yedder devant, ça faisait le taf. Ouais. Le problème, il était défensif l'année dernière. Et attention, parce que le problème n'est pas réglé. Buts contre Strasbourg, ils en prennent deux à Rennes, ils en prennent un à Nantes, ils en prennent deux à Nice. Donc, ils sont sur une moyenne de deux buts encaissés par match. Donc, le problème derrière, il est toujours là, malgré un recrutement d'un bon gardien.
Angers-Brest, 3-2 pour les Angers.
Bon, on peut passer à autre chose.
Oh, le derby breton.
Lorient-Lyon, messieurs. Lyon qui a longtemps été défait 1-0. Et avec un exploit de Léo Dubois, égalise... On va dire, pour moi, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que nous fait l'Olympique Lyonnais,
messieurs ? Ben, qu'est-ce que nous fait l'Olympique Lyonnais ? Ce qu'on redoutait depuis leur fabuleuse épopée.
Mais c'est incroyable. Comment un club comme l'Olympique Lyonnais peut en arriver là ? Mais je veux dire honnêtement, c'est, mais sportivement.
Mais conséquences, Moundir, pardon.
L'autre, il est dans Koh-Lanta, tu sais.
Moi, c'est Koh-Lanta.
Le totem du monétaire.
Conséquence de 10 années de néant sportif.
Non, 10 années, si, tu peux pas dire 10 années.
Voilà, attends, on a un ami à dire si. Ça fait 2 ans, 1 ou 2 ans que ça se
fait.
Ouais,
3 ans, allez, mais pas 10 ans, tu peux pas dire ça.
Ça fait depuis 2010 que ce club n'a pas progressé sportivement, je vais y arriver. Ça fait 10 ans que moi, je ne vois pas Lyon proposer du bon jeu. Lyon, si tu enlèves le centre de formation, c'est Nantes, l'équivalent de Nantes. Parce que les joueurs qui ont maintenu le niveau à Lyon, c'est le centre de formation.
Fekir,
on est d'accord, mais ça ne se résume pas qu'à ça.
Lloris, Diakaté, Benzema, Ben Arfa, enfin, excuse-moi, mais là où je rejoins Kevin, désolé, je vais égratigner nos amis lyonnais et notre Melvin, mais avant que le Qatar arrive, je me rappelle de ces tableaux des budgets. Lyon avait 10 fois le budget du deuxième. Lyon a régné sur la France comme même Paris n'a jamais régné, parce que Paris avait quand même des outsiders, même s'ils étaient d'un plus faible niveau. Je comprends pas comment Lyon a pu capitaliser, a pu avoir 10 fois le budget du deuxième, a pu avoir un centre de formation, mais a pu savoir quoi en faire, des joueurs qui sortaient comme Benzema, faire des transactions à coût de dizaines de millions, et aujourd'hui avoir un jeu et une situation aussi soporifique, c'est une faute professionnelle. Tu peux pas régner sur un pays comme la France pendant 10 ans, être 10 fois plus, avoir un budget 10 fois plus important que les autres, être propriétaire de ton club, avoir une identité, un centre de formation. Franchement,
si on avait un projet sportif défini qui était, même si c'était que du vent, mais au moins qu'on le dise, un vrai projet sportif qui serait de concurrencer le PSG, mais le dire et de mettre tout en place pour le faire.
Les joueurs
à Lyon n'ont pas envie les joueurs sont de passage. Mais pourquoi ils sont de passage? Parce qu'ils sentent qu'il y a rien à faire dans ce club-là.
Mais aujourd'hui, pour moi, l'Olympique Lyonnais est structuré comme le Bayern de Munich. Je dis bien, il est structuré comme le Bayern de Munich.
D'accord avec toi.
Et a la chance d'avoir un meilleur centre de formation que le Bayern de Munich. Et quand tu vois, regarde, voilà, c'est le néant, c'est incroyable.
Ça s'est accéléré.
Mais le problème, c'est aussi à Garcia. Garcia, c'est une catastrophe.
Ça s'est accéléré. Alors, tu vois, je dis, depuis 10 ans, le club n'avance pas. Et c'est maintenu à un niveau grâce à son centre de formation. Ça s'est accéléré il y a 2-3 ans, cette chute de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Parce que Lyon a commencé à ne plus garder les jeunes joueurs en centre de formation.
Notamment Lacazette et Tolisso.
Il y a eu le départ massif, et je crois sur un an, on a eu Gonalon, Tolisso, Lacazette qui sont partis. Et c'est là, il y a même eu des déclarations, je crois, de Jean-Michel Aulas qui disait « Non, mais maintenant, le centre de formation, on n'a plus trop besoin, c'est plus maintenant à acheter des joueurs.
Il a dit « On va commencer à investir. On va commencer à investir plusieurs dizaines de millions sur des joueurs de l'extérieur. »
Voilà, c'est ça.
« On va avoir les moyens d'investir 50 millions, 50 à 70 millions par mercato. »
Vous pouvez pas m'enlever. Ok, d'accord, Rudy Garcia, les joueurs qui vous voulez. Excusez-moi, là où j'en veux à quelqu'un, c'est mon président, c'est à Jean-Michel Aulas.
C'est ton père.
Parce que
ton père, ouais.
C'est pas mon père, mais non, mais à un moment donné, qui décide, d'accord,
mais c'est lui, mais
c'est
oui,
lui
mais
qui
c'est
a
lui.
Voulu faire
oui,
bien
oui,
Juninho.
Mais c'est lui, mais
c'est
moi je blâme que lui depuis le départ.
Parce que pour moi, c'est pourtant le meilleur président en France. On est qu'on soit bien d'accord. Peut-être pas actuel. Mais
il,
sur
a,
son histoire.
Il a créé un modèle où il a été en avance sur pas mal de monde et c'est très respectable. Maintenant, on peut pas vivre que dans le passé. Sinon, on va être réduit à être l'équivalent de l'OM et ça rien que l'idée me fait frémir. On peut pas continuer de dire oui, mais dans les années 2000, on a fait ça. Oui, bon, les années 2000, ça fait presque 20 ans que c'est fini. Donc maintenant, est-ce qu'on peut essayer de démarrer un autre cycle avec des bases solides? Le football ne fonctionne plus comme dans les années 2000. Maintenant, l'argent est beaucoup plus important. Et maintenant, si tu veux y arriver, il faut investir. Maintenant, si t'as pas envie d'investir,
oui, mais investir. T'as investi sur les joueurs, mais t'as investi aussi sur le
mais
staff.
Mais c'est ça que je te dis.
T'es encore avec Cassapara.
Oui, oui.
T'es encore avec comment il s'appelle, Gérald Baticle. Tu recrutes un coach de troisième zone. Tu recrutes un directeur sportif qui est pour moi un ambassadeur, mais qui est pas un directeur sportif. Je suis désolé.
Mais il y a un problème de toute façon que. Le problème de l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est qu'ils ont fait cette campagne de Ligue des Champions fabuleuse la saison dernière et miraculée. Je voulais pas le dire, mais je l'ai presque dit à un moment. Je disais en espérant que ça leur serve pour la saison prochaine, parce que quelque part je me suis dit, mais je suis sûr que ça, ils vont jamais s'en relever de cette campagne de Ligue des Champions, parce que ça va les desservir plus que les servir, parce que en faisant des performances comme ils ont fait en Ligue des Champions, c'est très bien pour le foot français, c'est bien pour la pub, c'est bien pour le club, ça permet de rêver un petit peu, mais il faut penser à l'après. Tu peux pas vivre dans le présent tout le temps.
Oui,
et,
ça, je suis d'accord avec toi.
Le problème, c'est que quand ils ont fait cette campagne, ils se sont tous dit « Ah ben, c'est bon, on a tout bon. Garcia, c'était la bonne personne. Juninho, c'est la bonne personne. Vous avez vu les joueurs qu'on a fait venir, là. C'est très bien. Donc, du coup, on continue sur le même modèle parce que ça marche. Ça marche. On a fait une fois une demi-finale de Ligue des Champions sur les 10 dernières années. On ne parle pas trop du fait qu'on a fini 7e et qu'on a été nul en plus toute la saison. Mais voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est ça qu'il fallait faire. Mais non.
Tu vois ce que fait Lyon en Ligue des Champions, c'est encourageant.
Mais Loulou,
tu
Loulou,
peux pas, tu peux, t'as Melvin, des espoirs.
Melvin, on t'aime bien, mais faut pas dire que des conneries.
Mais non, je dis pas de conneries. Non, mais justement, Melvin, je défends pas mon club.
Sur les dernières saisons, Lyon, c'est 7e, 3e, 3e, 4e. Il termine tous les ans à 30 points du Paris Saint-Germain. Le seul club qui a réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain les dernières années, c'est Monaco. Même des clubs comme Lille se lissent à un niveau supérieur à celui de Lyon. Nice termine devant Lyon, Lille termine devant Lyon, Monaco termine devant Lyon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Lyon n'est même plus l'outsider, n'est même plus le challenger qui est derrière le Paris Saint-Germain. Lyon était en train de tomber dans l'anonymat. L'année dernière, ils sont vraiment tombés en dehors des places européennes. Donc, ils sont devenus un club de seconde zone, de première partie de tableau. Et c'est plus le grand Lyon qu'on a pu connaître.
Oui, c'était encourageant de voir, effectivement, de se dire, oui, la Ligue des Champions, ça les a aidés. Mais en fait, Lyon fonctionne comme ça depuis 10 ans maintenant. C'est-à-dire que toute la saison, ça se regarde un petit peu. Bon, c'est pas grave, on perd. Puis, sur les 10 dernières journées de championnat, putain, la Ligue des Champions, il faut qu'on y aille, sinon, putain, on est dans la merde. Alors, du coup, ils se mettent à jouer, ils se mettent à rattraper, ils font des fins de saison de fou, où on se dit, mais putain, mais pourquoi ils le font maintenant et pourquoi ils l'ont pas fait au mois d'octobre, novembre, décembre? C'est toujours comme ça. Et en fait, ils ont répercuté. En fait, ils se sont juste dit, on a intérêt à être super bon en Ligue des Champions si on veut avoir une micro chance de la jouer l'année prochaine. Mais finalement, c'était la tentative désespérée parce que t'es forcément rattrapé après par plus fort que toi et parce que tu n'as pas le niveau. Mais il faut arrêter. Le problème, tu vois, c'est toute cette campagne. J'aurais préféré vraiment que Lyon se plante en Ligue des Champions pour vraiment qu'on se dise tous que cette saison, elle a été pourrie jusqu'à l'os.
Et commande le championnat.
Et qu'on reprend le championnat sur d'autres bases. Parce que là, du coup, Garcia, il s'est pris pour Antonio Conte. C'est 3-4-3 à tous les matchs. Défense à 5. Enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, faut arrêter.
La, la dernière fois que Lyon, quand même, pour finir et pour appuyer encore Kevin, la dernière fois que Lyon a été à moins de 10 points du Paris Saint-Germain, c'était en 2014. Donc ça fait pas 2-3 ans.
Oui, ça fait 6 ans.
Fait pas, ça fait 6
ans. Non,
mais
on est d'accord. On est d'accord. Messieurs, on va avancer.
Ouais, faut qu'on avance.
On va pas parler de Paris-Reims, hein, parce que sinon je vais m'énerver sur les Rémois avec leur défaite en Ligue Europa et je pense que je risque d'être, de les trancher en deux. parce que je connais même pas le club. Vous savez que c'est quand même un club qui a changé de nom parce qu'ils ont eu des problèmes financiers, etc. Hein, et contre qui ils ont perdu. Ouais. C'est quand même incroyable. Mmh. On va faire un petit tour d'Europe, messieurs, avec quelques matchs, notamment ce match de folie entre Brighton et Manchester United. Manchester United qui s'impose après le coup de sifflet final.
C'est plus possible. C'est plus possible. Les conneries comme ça, c'est plus possible. Mais moi, je me mets à la place de ces pauvres supporters de Brighton. Mais t'imagines, on dirait un gag. Mais je suis content d'un côté.
Ils échangeaient les maillots.
Mais je suis content d'un côté que c'est pas tombé sur la Juve parce qu'on est encore dit la Juve avantagée par les arbitres et le système. Ouais, c'est bon. Mais franchement, c'est normal de voir des trucs comme ça. Alors l'arbitre siffle la fin du match et. Ah mais il y a la VAR.
Attendez,
j'ai oublié. Ah bah attends, on va quand même regarder. Ah bah non, en fait c'est pas fini.
Revenez sur le terrain.
C'est plus possible. C'est plus possible de fonctionner comme ça.
C'est Milan. On en parlera après dans notre sujet sur la VAR justement. Un autre match qui a fait fureur, c'est quand même Leicester qui s'impose 5-2 à City.
Ouais.
Merci. Incroyable prestation de Leicester.
Incroyable. C'est Tony Truant.
Ouais. Mais Brendan Rodgers est un très bon coach, hein, le coach de Leicester. C'est le coach qui a failli ramener Liverpool au sommet de l'Angleterre en 2014.
Ouais.
Je sais plus. Ouais, quand il y a la glissade de Gerrard là,
Par contre, les gars, on parle Leicester, donc 5-2. Leicester, 28% de possession de balle, 7 frapes,
très
7
efficace.
Cadrés.
Bon, 125 pénalties aussi.
Très
efficace.
Mais incroyable. Je pense que bon, c'est un petit hold-up quand même, hein, parce que 28% de possession.
Hold-up, c'est sur un 5-2.
Et quand tu peux pas parler de pénalty après.
Et est-ce que un jour, les gars, est-ce que un jour, on pourra faire le plaisir dans cette émission ou dans une autre, mais ce sera dans une autre parce que là, on avance dans l'heure, de parler de Vardy. Est-ce qu'un jour on pourra en parler
parce que c'est un tueur.
Est-ce qu'on pourra parler de Vardy, du mec qui jouait en 7ème division
sous-côté.
Avec un bracelet, messieurs. Il jouait avec un bracelet. Mmh. Il était à chaque fin de match, il devait rentrer chez lui. Il était assigné à résidence. Il était pointé avec un bracelet. Il jouait en 4ème, 5ème division. Et aujourd'hui, ce mec marche sur l'eau. Il est bloqué à Leicester depuis maintenant plusieurs années.
Pas bloqué. Et ce mec, il a été champion avec Leicester, il a joué la Ligue des Champions.
Oui,
il y a pire.
Il a été champion première ligue avec Leicester.
C'est pas qu'il est bloqué, peut-être qu'il a envie de rester aussi.
Mais je pense que ce mec-là, on n'en parle pas suffisamment. Parce que ce qu'il fait,
Est-ce qu'on peut parler de la défense de Manchester City aussi? Parce que c'est quand même. Parce que les trois pénalties y sont en plus, il n'y a même pas de décision. Je sais pas, on claque encore 40 millions d'euros sur Ake.
Je sais pas, voilà. Moi, Laporte,
on
pas,
a claqué 50-60 millions d'euros sur Mendy. On a claqué l'équivalent sur Walker.
À la demande de Guardiola.
On a le Eric Garcia, je sais pas qui c'est, mais bon, bref, à mon avis, il veut pas rejouer de sitôt. Là, j'ai appris qu'on avait claqué encore je sais pas combien sur Ruben Dias, je sais pas quoi, là.
Ouais, c'est ça.
De Benfica. En fait, il faudrait que quelqu'un fasse comprendre à Guardiola que c'est parce que tu payes les défenseurs super cher que tes défenseurs vont être super bons. Ah, il faut les regarder
donc
jouer.
Donc t'es en train de nous dire que si tu veux les joueurs qu'il a, c'est pas forcément que ça marche. Ça faut nous le dire pour Sarri. Hein,
on va te la faire à chaque fois celle-là.
C'est n'importe quoi.
Je suis d'accord avec toi.
C'est n'importe quoi. Depuis 5 ans, on lui dit rien. Mais moi, je suis le président de cette équipe de Manchester City. Je lui dis bon, maintenant, t'arrêtes avec les défenseurs à 160 millions là.
Bah, il a l'oseille en plus.
Il a dû acheter au moins 500 millions d'euros de défenseurs.
Il a
l'oseille.
La faute à Manchester United qui met 90 millions sur Maguire, policier en Kepi.
Oui, ça devient n'importe quoi.
Non mais
il a raison.
Et quand tu vois que t'as des mecs comme Koulibaly à Naples qui sont sur le point de partir pour 55 briques, enfin, je veux dire, c'est quand même autre chose, quoi.
Mais même des Ferland Mendy,
putain, ouais,
au Real de Madrid, finalement, quand tu regardes 45 millions, tu te dis bon, bah,
ouais.
Ça me met presque mal à l'aise.
Ça met mal à l'aise. Messieurs, on va finir rapidement sur le championnat anglais. J'ai envie de faire un petit coucou encore à Everton, l'équipe de Carlo Ancelotti.
Carletto, ouais.
2-1 à Crystal Palace et surtout à Leeds.
Ils se trouvent premiers là, non?
Ouais.
Everton.
Voilà, Everton se trouve premier. Leeds, l'équipe de Marcelo Bielsa qui s'est encore imposée à Sheffield. Et génial. Ce soir, le choc. Liverpool-Arsenal, deux prétendants au titre. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal.
Ouais.
de ce côté-là. On va passer, allez, on va se faire plaisir, on va passer du côté de l'Italie, mon Kevin.
Ah, ça y est,
du côté de l'Italie, pour la deuxième journée, énormément de buts dans cette journée, comme tu nous le disais.
D'ailleurs, Kevin voulait remercier chaleureusement le club de Naples, hein, notamment.
6-0, hein, qui...
Oui.
Naples et Zlatan, voilà, les merveilles de la Serie A.
Ah, Zlatan toujours aussi phénoménal, hein, puisque l'AC Milan qui s'impose 2-0 du côté de Crotone, en sachant que Zlatan ne jouait pas puisqu'il a été décelé positif au Covid-19. Il a dit, vous avez vu ce qu'il a dit, Zlatan?
Le Covid a peur de Zlatan.
La Juventus de Turin, 2-2 du côté de Rome, mon Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé s'il n'y a pas Cristiano? Un carton rouge de Adrien Rabiot.
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il s'est passé qu'on est tombé sur une équipe de la Roma qui était très surprenante d'ailleurs, mais très joueuse.
Gros match de Veretout.
Mais gros match de quasiment tout le monde à la Roma. Très joueuse, qui a fait un petit peu du Garcia. Garcia contre City, contre la Juve, etc. C'est-à-dire 125 joueurs derrière et ça repart en compte super vite. Et ça a marché d'ailleurs sur le deuxième but. Il y a des matchs, bon, là, je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place au niveau de Pirlo à la Juve. Je suis pas spécialement inquiet. Il faut qu'on.
Qu'est-ce que tu en penses des système... débuts de Pirlo alors? Parle-nous un peu de Pirlo.
Il a essayé deux systèmes. Le premier système contre la Fiorentina.
4-2, ouais,
contre la Fiorentina, il est reparti sur une défense à 3. Ça a été super. Là, on est reparti sur une défense à 4 avec Danilo, Bonucci, Chiellini et Cuadrado. Moins bien dans l'animation, dans la conservation. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit trois vrais milieux de terrain.
Je suis d'accord avec toi.
C'est beaucoup mieux. Bon, je pense qu'il tirera les enseignements, il teste des choses. Bon, il a bien fait.
Après, vous avez vu qu'il rentre à la Juve, Arthur.
Oui.
Diego Costa, Bentancourt, il y a encore sur le banc qui ne rentre pas, Rugani, Desiglio, Dybala, c'est incroyable.
Dybala n'est pas rentré parce qu'il revenait de blessure et c'était un peu trop tôt, je pense. Mais bon, il essaie déjà bien de le voir sur le banc. Mais je pense que le début est positif parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette équipe.
Moi,
j'ai bien aimé l'attitude à 2-1 pour revenir. C'était une attitude positive. C'était pas une équipe qui était des fois qu'on a trop vu apathique la saison dernière. Il y a eu une belle réaction, des entrées très intéressantes aussi. Donc voilà, bon, Rabiot, tu vois, on parle de Pirlo. Pirlo a peut-être mal lu la performance de Rabiot sur tout le match parce qu'il fait plusieurs fautes quand même. Bon, c'est lui qui provoque le penalty parce qu'il met la main. Bon, main incontestable, hein. D'ailleurs, il peut prendre un rouge aussi sur cette main-là parce que la balle part en direction du but. En fonction de l'arbitre sur lequel il tombe, c'est compliqué. Mais et puis derrière, il fait une faute bête. L'expulsion est logique, mais je pense que Pirlo aurait dû le sortir bien avant pour faire entrer Arthur.
Messieurs, un autre match dont j'ai envie qu'on parle très rapidement parce que le temps nous est compté, c'est l'Inter Milan qui s'impose 4-3 face à la Fiorentine et un match de Franck Ribéry.
Ouais.
Incroyable, il est encore là, Francky, 37 ans.
Ouais.
Et franchement, l'Inter Milan qui continue à me surprendre.
Ouais, après...
C'est pas linéaire du tout, on est bien d'accord. Hein, c'est une équipe qui est en dents de scie, mais ils sont capables de faire de belles choses.
Ouais, ils sont bien aidés par la doublette de devant. Et là, Lautaro Martinez met encore un super but aussi. Donc,
D'ailleurs, il part pas.
Non, il part pas.
C'est bon, c'est officiel.
Non, mais merci le coronavirus, hein, parce que sinon, je pense que Barcelone les mettait, les 90 millions d'euros ou 100 millions d'euros.
Parce qu'il devait partir à Barcelone, ça se fera pas.
Ça se fera pas, pas cette année, peut-être l'année prochaine.
Petit événement, monsieur, pour clôturer cette page européenne, c'est la première défaite du Bayern de Munich depuis un long moment.
Octobre ou novembre de l'année dernière, je crois.
C'est ça,
aussi.
Et lourde défaite, 4-1 du côté d'Offenheim. On va leur pardonner. Hein.
Bon, en espérant que ce soit un accident. Ils ont joué en plus là il n'y a pas longtemps contre Séville. Là.
Je pense que c'est excellent. Messieurs, on a 5 minutes pour parler de notre sujet qui nous tient. La VAR, l'arbitrage. Ouais. J'ai même pas envie de dire la VAR. J'ai envie de rester même sur l'arbitrage parce que même sans la VAR, c'est une catastrophe.
Mais la polémique là qu'il y a en ce moment avec l'utilisation de cette VAR, c'est la nouvelle règle qu'il y a eu sur les mains. Alors maintenant, vous savez qu'il y a eu souvent ces débats, main intentionnelle, pas intentionnelle, parce que n'étaient sanctionnées dans la surface que les mains décollées du corps et bougées de manière intentionnelle pour changer la trajectoire du ballon. Moi, j'ai toujours critiqué cette règle parce que je trouvais qu'elle voulait absolument rien dire, parce que l'intentionnalité, même au ralenti, c'est super compliqué de la déterminer. Autant des fois tu peux voir, autant des fois c'est compliqué. Un joueur qui défend juste parce que bah, il a pas les mains, c'est pas un pingouin, il a pas les mains collées au corps, donc des fois il défend avec les mains machin, le ballon va à la main, bon penalty, pas penalty, etc. Main pas main, jaune pas jaune. Donc finalement, je trouvais que cette règle sur le principe, elle est parfaite parce que main décollée, maintenant c'est main décollée du corps, intentionnel pas intentionnel, on s'en fout.
Penalty.
Et moi, ça me va totalement.
Je suis d'accord.
Parce que une main reste une main. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis. Alors, après, je pense que c'est. Là, les gens ne sont pas habitués encore à cette règle parce qu'on est encore en train de débattre sur l'intentionnalité alors que ce n'est plus un débat maintenant avec la règle. La consigne qu'ont les arbitres, et que ce soit sur les terrains ou sur la vidéo, c'est main décollée du corps, penalty. C'est tout. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus.
Après, il n'y a pas que la main, moi, qui me dérange. C'est, est-ce que vous avez vu le but, justement, hier de Lorient face à l'Olympique Lyonnais?
Non, je ne l'ai pas vu, celui-là.
Validation. Alors, l'arbitre lève le drapeau, hors jeu. D'accord, ouais. Il y a eu but. Ils reprennent quasiment le jeu. Et là, Clément Turpin décide lui-même de faire valider par la VAR.
Ouais.
Ça prend 4 minutes 32 exactement pour un hors-jeu où finalement on a deux lignes rouges et bleues qui sont l'une sur l'autre, il valide le but, heureusement, même si j'aurais préféré qu'il ne le valide pas, il le valide, mais moi c'est tous ces litiges, excusez-moi, qui prennent une plombe, qui coupent le jeu, qui...
Bah, t'as vu le but d'Icardi ou pas hier?
J'ai vu le but d'Icardi.
Il y a un 0 sur le premier but, deuxième but, Icardi marque, Mbappé à l'œil nu, tu vois qu'il est exactement sur la même ligne, au moment où il réclame la VAR, tu te dis putain ça va jouer dans un sens, dans un autre, ça va jouer à 4 mm. Putain, ça a duré au moins 5 minutes. J'ai
mais
eu le temps
arrêter.
De faire le biberon de ma fille, de revenir, de m'asseoir.
Non,
il était
long.
Encore
surtout,
avec le doigt sur l'oreille. Quoi,
surtout
putain.
Qu'à une fraction de seconde, il y a des centimètres en plus. Tu dois te donner une plage peut-être entre 5 et 10 centimètres, je sais pas. On favorise l'attaque, faut laisser le jeu.
Mais oui,
mais c'est ça, ça a toujours été le gros problème de cette règle du hors-jeu qui était...
Mais, messieurs, j'espère, alors je vais faire la demande, hein, je vous le dis, je suis très ami avec Alexandre Viala, hein, qui est un arbitre de Ligue 1, qui est l'ancien assistant de Tony Chaperon. J'avais discuté avec lui, mais j'espère qu'on l'aura, parce que, justement, les arbitres sont beaucoup plus en dilettante face à leurs décisions, parce qu'ils savent qu'il y a la VAR derrière. Et, ça, je pense que ça peut tuer notre football. Malheureusement, je comprends pas qu'on prenne pas exemple sur le rugby, parce que le rugby, j'ai jamais vu ça. Pourtant, le rugby, c'est dans des molles, ils sont les uns sur les autres, et l'arbitre il met juste la main sur l'oreillette en 2 secondes. Faut savoir qu'au rugby, vous savez qu'ils sont un seul dans le camion.
Ouais.
Il est tout seul le mec qui est dans le camion. Nous, on a 2 arbitres, on a 10 000 caméras, il y a tous les prods incroyables.
Plus ça dure, plus ça laisse place à la polémique. Que fallait siffler, pas siffler, tu le fais au bout de 10 secondes, c'est passé, c'est bon, l'arbitre il a tranché, c'est lui le patron, et puis point barre quoi. Ouais, je suis. Limite la VAR maintenant, t'as envie de dire, bah écoutez, on va mettre. Il y aura plus d'arbitre sur le terrain. Il y aura
des haut-parleurs. Michel Platini.
Il y aura des haut-parleurs.
Le problème, c'est que, un peu à l'image du Real Madrid, je sais pas si vous avez vu le match Betis, Betis Real, l'arbitrage. Et ne peut être plus scandaleux. Et tu vois, quand on parlait de ce Real qui était un peu avantagé des arbitres la saison dernière, là, franchement, c'est pas une bonne pub qu'on leur fait, parce que c'est encore le cas. Il y a un expulsé, je raconte rapidement. Il y a un expulsé pour le Betis à un quart d'heure de la fin qui amène un coup franc, mais c'est hyper, hyper compliqué. Jovic part tout seul au but, l'autre arrive derrière. Ne fait pas un attentat, ne le bouscule pas plus que ça. Il est juste derrière. Jovic tombe un petit peu correctement. Et ben, on considère que c'est le dernier défenseur rouge. Moi, je trouve que le rouge est sévère. Mais derrière, il y a un pénalty lunaire.
À la
5 minutes de la fin, je crois. Voilà. À 7 minutes de la fin, le joueur le pousse. Et pourtant, il est vu à la VAR, hein, mais c'est impressionnant ça. Je sais pas si c'est Benzema qui pousse un petit peu le joueur dans le duel, c'est pas méchant. Et le joueur, du coup, en tombant, touche le ballon de la main, pénalty, mais c'est pas possible. Et normalement, avec la VAR, c'est interdit de siffler des pénaltys comme ça. Autant, tu peux, s'il n'y a pas de la VAR, on aurait pu dire, avec la VAR, on aurait pu déterminer que c'était pas volontaire cette main. Mais là, je veux bien qu'il n'y ait plus le discours de volontaire. Mais là, si c'est le joueur qui le pousse à côté et que l'autre tombe, bah, tu peux pas siffler main là-dessus, c'est pas possible, quoi.
Je suis
Et je suis sûr que dans l'autre sens, il est pas sifflé, pénalty.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Messieurs, allez, on va faire notre petit quiz, parce que ça fait quand même plaisir. Est-ce que vous les entendez, les supporters?
Ah, t'as pu remettre?
Ouais, j'ai pu remettre. Il est là, on a les supporters, on est là. Messieurs, c'est moi aujourd'hui qui ai préparé ce petit quiz. C'est parti, messieurs. Parce
tu
qu'on
filmes
a...
ou pas? Parce que j'avais bien aimé.
Je peux pas, je peux pas faire et filmer en même temps.
Allez, attends, tu vas prendre mon téléphone.
Filme, mon Pierrot, filme. Allez, c'est parti, messieurs, vous êtes prêts? Attention!
Attends,
tu te dépêches, Lorraine! On va se faire couper après ce soir! Tu te rends pas compte, on va se faire couper!
Allez!
Un qui qu'a dit, messieurs! Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent, pense le futur!
Je l'ai déjà entendu celle-là.
Qui c'est? C'est un ancien entraîneur de Ligue 1.
Un français?
Français!
Oh là là.
Ancien entraîneur de Ligue 1 français.
Il est toujours en activité.
Donc il est plus en activité.
Il est plus en activité.
Jacquet, non.
Non, c'est pas Aimé
Domenech.
Jacquet. C'est pas Domenech.
Giroud.
Ancien coach du Paris Saint-Germain. Ancien coach du Paris Saint-Germain.
Putain.
Ancien grand joueur de l'épopée de France 1982.
Fontaine.
Laurent Blanc.
Non,
Fontaine. Platini.
Toujours pas.
Non.
Il est d'à côté de
Giresse.
Il est de Vénissieux, juste à côté de chez nous.
Oh putain.
Putain, mais j'y arrive pas. Oh.
Mais c'est pas possible, messieurs.
Fernandez.
Luis Fernandez.
Eh oui.
Ah
oui. Oh oui, putain.
Notre Luis.
Notre
Luis. Messieurs, deuxième, 1-0 pour Kevin. Je suis un qui suis-je? Je suis le premier club de football non scolaire. Fondé en 1857. Je suis du côté de l'Angleterre.
Liverpool, Manchester,
mes couleurs,
Chelsea.
Mes couleurs sont rouge et noir.
Nottingham Forest.
Je suis revenu depuis peu du côté de la Premier League.
Bournemouth.
Non, toujours pas.
Brighton.
Chris Waddle a joué
Crystal Palace.
Dans mon club avant de venir à l'Olympique de Marseille.
Hull City, non. Putain, je sais plus, j'y arrive plus là.
Everton.
Non, rouge et noir.
Toujours pas. Rouge et noir.
Rouge, noir et bleu.
C'est pas Northwick.
Quelles sont mes couleurs?
Non, Norwich, c'est jaune et vert.
Le
Sheffield.
Sheffield.
Il dort.
Sheffield.
Je ne peux pas tout faire.
2-0. Allez, il nous en reste.
Il nous le donne sur un plateau en fait.
Ouais, je vous
c'est plus
ça.
Qu'un plateau là que je vous donne.
Allez,
c'est,
vas-y.
C'est
avance.
Un plateau repas.
On avance.
Allez, c'est la dernière parce qu'après on est bouffé par le temps. C'est la question. Bonus, c'est parti. je suis chaud comme un pépito. Je suis espagnol. Et pourtant, j'ai évolué.
Sergio Ramos.
Non. Et pourtant, j'ai évolué dans aucun club espagnol au poste de milieu de terrain. J'ai commencé ma carrière.
Dans aucun club espagnol?
Ouais, dans aucun club espagnol. Je suis espagnol pourtant.
Il joue encore?
J'ai évolué. Il joue encore. D'accord? J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2003.
Oh.
Je suis resté très longtemps dans un club anglais. J'ai la réputation d'avoir tantôt les cheveux longs, mais je me suis également rasé la tête.
David Silva!
Oh,
il a joué en Espagne, à Valence.
Non.
Ah si?
Ah bah écoute,
Oh là là, putain,
je vais porter réclamation, je vais porter plainte contre le
football.
C'est moi qui
fais réclamation
là.
C'est pas grave, 3-0, c'est une piquette. C'est une piquette, 3-0, messieurs.
Allez,
c'est
merci.
La fin de notre émission, on a bouffé le temps. Merci à vous, c'était encore un vrai régal. C'est la semaine prochaine, c'est Kevin qui nous prépare le sujet. Messieurs, à bientôt. Bon soirée.
Ciao.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.